Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens très bien.
Racontez.
Oh, oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, nos invités reviennent sur un jour important de leur vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et aujourd'hui, je reçois Michel Pierre. Bonjour Michel Pierre.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
Michel Pierre, vous êtes historien, spécialiste d'histoire pénale et d'histoire coloniale.
Oui, oui, oui.
Ça marche.
Enfin, j'essaye.
Vous essayez. Mais vous n'êtes pas seulement historien, vous êtes un curieux, vous avez la bougeotte, vous n'êtes jamais là où l'on croit vous trouver, vous pouvez être au Sahara, dans la forêt amazonienne, en Italie ou en Bretagne. Vous avez une géographie changeante. Est-ce que j'ai raison, Michel Pierre ?
Oui, enfin, une géographie malgré tout relativement modeste, mais j'ai toujours pensé qu'une vie d'adulte se construit sur une géographie d'enfant qu'on réalise. Et j'ai jamais éprouvé autant de plaisir, de bonheur que finalement de se retrouver pour la première fois devant les pyramides d'Égypte, ou de pénétrer par le petit sentier dans Petra, ou de voir la Grande Muraille.
Et alors, dans vos voyages, vous êtes protégé, vous vous en remettez à votre fétiche, Michel Pierre.
Ah oui, oui, c'est une petite histoire personnelle. Il se trouve, décidément...
Mais vous m'avez envoyé des photos de votre fétiche, alors.
Bon, il y a quelques décennies, j'avais ramené une statue africaine, mais genre ouvrage d'aéroport de Dakar. Et depuis, à chacun de mes déplacements, à ce fétiche, je lui rajoute un morceau d'étoffe, une médaille, tout ce qu'on peut ramener, mais de manière très modeste. Hein. Il n'est pas couvert d'or ni d'argent, comme certains fétiches dans d'autres civilisations. Il est très heureux avec ce qu'on peut lui ramener de personnel. Et c'est comme un symbole de cette vie de déplacement. Je ne suis pas explorateur non plus, n'exagérons rien.
Non, on n'exagère pas. En tout cas, tout commence pour vous, Michel Pierre, l'été 1954. C'était un été particulier. Vous étiez assis sur une plage bretonne et vous lisiez pour la première fois le journal de Spirou.
Les nuages s'amoncellent bientôt dans le ciel de Champignac. Le vent enfle sa voix, un grondement lointain. La première nuit de camping de Spirou et Fantasio risque fort d'être arrosée.
Fantasio ?
Quoi encore ?
Les vélos. On a oublié de les couvrir.
Oh, flûte alors !
T'inquiète pas, j'y vais.
Couvre-toi bien surtout.
Oh, c'est clair ! On y voit comme un plein jour.
Fantasio !
Oui !
Incroyable ! J'ai vu un homme qui... Oh !
Eh ben, qu'est-ce que t'as ?
Eh ben, j'ai vu une chose horrible.
Quoi ?
Juste derrière, à une quinzaine de mètres de la tente, sortant d'un taillis, un bonhomme juste dans l'allure d'un éclair, un bonhomme très maigre, avec sur le dos un lapin énorme. Et d'une taille. Oh, c'est bien simple. Les oreilles traînaient par terre.
Non, dis donc, Spirou, ce genre de blague. Et par un temps pareil, non. Là, tu exagères, Spirou.
Bah, Fantasio, je te donne ma parole. C'était un lapin.
Michel Pierre, Fantasio, Spirou, c'était vos lectures d'enfants. Qu'est-ce qui s'est passé cet été 54 pour vous, Michel Pierre ?
Oui, c'était pas tout à fait sur une plage, c'était dans un bois qui séparait la plage, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, ce qui me frappe dans ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'en fait, pour tout lecteur de bande dessinée, et particulièrement dans l'enfance, écouter, enregistrer des personnages qu'on imagine, dont on imagine
ça
les voix.
Ça vous plaît
pas ? C'est pas que ça plaît pas, ça déroute totalement. Je me souviens d'une anecdote que racontait Hergé, par exemple. Il avait reçu le courrier d'une petite fille qui est allée voir le film Tintin et les Oranges Bleues,
ouais.
Qui avait l'habitude de lire les albums, et qui avait écrit en disant « Je suis allé voir le film, c'est vraiment bien, mais le capitaine Haddock n'a pas la même voix que dans les albums. »
Alors Michel-Pierre, dites-moi ce qui s'est passé pour vous cet été 54.
Ce qui se passe, c'est que je feuilletant l'album du journal de Spirou, qui rassemble donc tout un ensemble des hebdomadaires, c'est toutes ces aventures, d'abord Spirou et Fantasio, dessinées et scénarisées par ce formidable génie qui était André Franquin, et puis toutes les autres séries qui figurent dans Spirou à l'époque. Ce sera aussi bien l'aviation avec Bugdani, avec une emprise de la guerre froide qui est très présente même dans les hebdomadaires pour la jeunesse, les débuts aussi de la patrouille des castors, qui sont des scouts à qui il arrive un certain nombre d'aventures. Et puis vous avez le début d'une série qui s'appelait Timour, et qui va raconter une histoire de l'humanité par générations successives, et le premier album est sur la préhistoire. Donc finalement, entre le temps qui va de la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine, et l'espace, puisque l'aventure de Spirou et Fantasio se déroule pour partie dans la forêt amazonienne à cette époque, un certain nombre de choses se mettent déjà en place.
Qu'est-ce qui se passe pour vous à la lecture de cet album Spirou, Michel-Pierre ?
Alors on se dit,
pourquoi vous l'avez choisi comme journée particulière ?
Un certain nombre d'horizons que je vais suivre par la suite, mais sans le savoir totalement, se mettent à ce moment-là en place.
À cause de toutes ces aventures, de ces pays étrangers, de ce que vous visitez, ça vous... Parce que vous étiez un petit enfant breton, vous n'étiez jamais sorti de votre Bretagne, Michel-Pierre ?
Non, à ce moment-là, non, pas vraiment, non, je suis né à Pontivy, dans le Morbihan, là, on avait glissé un petit peu vers la mer, en l'occurrence vers la Trinité-sur-Mer, mais les grands voyages, c'était dans la bande dessinée.
Donc c'est cette lecture qui a marqué votre imaginaire
Oui, mais je pense que j'appartiens aussi à une génération. Beaucoup d'autres lecteurs ont été marqués. C'était relativement peu étudié sur la France. Mais par exemple, quand on regarde du côté de l'Italie, pour la génération plus ancienne des années 20 et des années 30, on a un certain nombre de créateurs comme Fellini, comme Hugo Pratt, comme Italo Calvino, etc., qui ont été marqués également par la bande dessinée américaine qui était traduite en Italie et par ce régime de l'image qu'a été le fascisme. Et ce double héritage d'images a formé, bien sûr, un imaginaire qui a donné des cinéastes, des dessinateurs, des écrivains, des hommes de théâtre. Cette influence de la BD en France a finalement... C'est presque un champ de recherche, de voir comment des créateurs tous azimuts ont pu être marqués par les lectures de bandes dessinées.
En 1954, Michel-Pierre, Patachou reprenait cette chanson de Georges Brassens.
Mon Seigneur l'astre solaire, comme je ne l'admire pas beaucoup, m'enlève son feu, oui mais de son feu, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. La lumière que je préfère, c'est celle de vos yeux jaloux, tout le restant m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Monsieur mon propriétaire, comme je lui dévaste tout, chasse de son toit, oui mais de son toit, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. La demeure que je préfère, ce sont vos bras frais et doux, tout le restant m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Madame ma gargotière, comme je lui dois trop de sous, me ferme sa table, oui mais de sa table, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. Le menu que je préfère, c'est la chair de votre cou, tout le restant m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Mon patron, le vieux notaire, comme je n'en fiche plus un clou, chasse du bureau, mais du bureau, moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. Le travail que je préfère, c'est chanter rien que pour vous. Tout le restant m'indiffère. J'ai rendez-vous avec vous. Sa majesté financière, comme je ne fais rien à son goût. Garde son or, oui, mette son or, moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. La fortune que je préfère, c'est votre cœur d'amadou. Tout le restant m'indiffère. J'ai rendez-vous avec vous.
Michel Pierre Patachou, c'est votre tasse de thé.
Un petit peu, mais alors, je pense qu'à 8 ans, l'expression « cœur d'Amadou », j'aurais vraiment eu un problème, et je suis pas totalement certain que j'ai pu comprendre. Oui, bah, c'est la chanson française de ces années 50 que l'on écoutait à la maison, oui, tout à fait.
Alors, l'été 1954, Michel Pierre, vous découvrez le journal Spirou, enfin, vous vous plongez dans ce journal Spirou. Les aventures de Fantasio, de Jean Valardi vont marquer votre imaginaire d'enfant. Un peu plus tard, la lecture de Au bagne d'Albert Londres va dessiner votre géographie d'enfant. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer, Michel Pierre, qu'est-ce que c'était que ce livre d'Albert Londres, Au bagne? C'était une série d'articles.
Oui, c'est une série d'articles qu'Albert Londres réalise en 1923 et qui a un succès considérable en France, au point que le ministère sera amené à apporter un certain nombre de modifications sur la vie quotidienne des forçats en Guyane. Alors je découvre plus tard, c'est bien après Spirou, là, oui, j'ai 13-14 ans, et c'est un vrai choc d'écriture, parce que on n'étudie pas Albert Londres à l'école, ça ne fait pas partie des cours de français. Et de trouver cette écriture, ce rythme, ce style de journaliste, cette efficacité, ça a été un choc sur d'autres manières d'écrire que celle apportée par l'école.
Alors juste, je lis un tout petit passage. Alors j'hésite entre deux passages. Il y a une espèce de description du bagne qui explique que c'est une machine à châtiment bien définie, réglée, invariable. C'est une usine à malheur qui travaille sans plan ni matrice. On y chercherait vainement le gabarit qui sert à façonner le forçat. Elle les broie, c'est tout, et les morceaux vont où ils peuvent. Voilà un exemple de la langue d'Albert Londres. Ces forçats en morceaux qu'ils vont où ils peuvent.
Oui, cette usine à malheur, enfin tout est... Ou à un moment, quand il parle des travaux dans la forêt, il dit que la piste manque comme une dent dans la mâchoire. Et tout est... Et il est resté peu de temps, hein. Alors, d'un point de vue historique, son témoignage peut éventuellement être contestable, mais d'un point de vue stylistique, certainement pas.
Alors par exemple, ce n'est pas, donc c'était sur les îles du Salut, hein, qui était le bagne,
une partie du bagne.
Et par exemple, il écrit, Albert Londres écrit, « Je demande en passant que l'on débaptise ces îles. Ce n'est pas le salut là-bas, mais le châtiment. La loi nous permet de couper la tête des assassins, non de nous la payer. »
Oui, ça c'est formidable. Ça c'est vraiment, ça résumait exactement ce qu'on pouvait penser du bagne entre les deux guerres mondiales, qui était effectivement une institution, plus personne n'y croyait vraiment, ça n'était ni exemplaire, ni de dissuader qui que ce soit de commettre un crime ou un délit. Et Albert Londres, alors ce qui est intéressant, ce qu'on dit parfois, parce que là on a une sorte de lieu commun, disant que Albert Londres a participé à la suppression du bagne.
Ouais.
Non, nous sommes dans un reportage de 1923 et le bagne est supprimé en 1938,
38.
Donc 15 ans plus tard. Donc Albert Londres ne demande pas du tout, du reste, puisque à l'issue de ces reportages, il écrit au ministre des colonies. Faut jamais oublier que ces histoires de bagne sont une affaire du ministère des colonies et pas du ministère de la justice ou de l'intérieur. Et il écrit au ministre en disant non, la vous vous y prenez mal, il faut faire comme ceci, comme cela, mais il ne met pas en cause l'institution. Donc son rôle pour la suppression du bagne était totalement nul.
Alors Michel Pierre, ma question c'est quand vous lisez ça, qu'est-ce que vous découvrez une écriture, mais vous plongez dans un monde, il y a aussi ces forçats, les descriptions des forçats, il y a des pages formidables sur les tatouages.
Oui,
les forçats, par exemple. Vous êtes fasciné ou vous découvrez, c'est une sorte de prise de conscience de ce qui se passe au bagne. Qu'est-ce qui vous travaille là, Michel Pierre, quand vous lisez
Les tatouages, j'avais pas de fascination spécifique pour les mauvais garçons ou pour les tatouages. Non,
excusez-moi, je vous coupe, mais quand même, le passé m'a trompé, le présent me tourmente et l'avenir m'épouvante, c'est quand même pas mal.
Oui,
ou alors j'ai vu, j'ai cru, j'ai pleuré. Ça, c'est des exemples de tatouages.
Oui, c'est des exemples de devises qu'on se met sur la peau. Non, ce que je trouvais étonnant et ce qui m'a fasciné, c'est ce rapport très très spécifique entre une nature, celle de la forêt amazonienne, et des hommes qui étaient contraints d'y vivre, ou plus exactement d'y survivre. Donc c'est ce lien ce côté totalement extravagant de faire partir des condamnés de métropole ou d'autres colonies françaises dans un lieu qui n'avait rien à voir avec leur environnement. Quand vous vous retrouvez face à la forêt amazonienne, avec y compris une faune que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer sur le pavé parisien, ou dans les paysages berrichons, cette espèce de folie en fait qu'a représenté le bagne de Guyane et ce qu'elle produit aussi comme imagination et comme imaginaire.
Actuellement, les condamnés aux travaux forcés sont réunis à l'île de Ré. Chaque année, un départ a lieu pour la Guyane et les îles du Salut qui, depuis 1852, ont été désignés comme lieu de transportation. Les condamnés sont embarqués à bord du cargo La Martinière spécialement aménagé pour leur transport. Après plus d'un mois de voyage, le navire arrive en vue du phare des Enfants Perdus qui signale les côtes guyanaises et les trois îles du Salut. C'est en Guyane que se trouvent le pénitencier et les principaux camps de forçats. Quant aux relégués, ils vivent à Cayenne ou aux environs immédiats. En créant ce bagne, le législateur espérait obtenir les classifications indiquées par la durée des peines autant que par l'âge et le caractère des individus.
Michel Pierre, vous êtes allé explorer les traces de ce bagne plus tard quand vous étiez un jeune professeur d'histoire. Vous êtes parti.
Oui, la première fois, c'était en 1979. En fait, j'ai 40 ans après, j'ai donc pris perpète sur la Guyane et j'en suis plutôt content parce que on peut pas, comme historien, écrire simplement à partir des archives ou à partir de l'imprimé. Ça m'a jamais vraiment intéressé. J'ai toujours eu besoin de confronter une connaissance plus ou moins livresque ou de l'écrit au sens large avec ce qu'on peut découvrir sur place. Sinon, on ne comprend pas si on ne se déplace pas à la rencontre de ces recherches. Et là, en 1979, c'est vrai que c'est un premier choc. Bah, comme le dit un peu le reportage, quand même, on peut pas. C'est totalement extraordinaire. On pourrait pas l'inventer. Le bateau arrive conduisant les bagnards et la première terre qu'il découvre, c'est l'île de l'Enfant Perdu, qui a été baptisé ainsi avant qu'on y impose le bagne. Et le reportage est intéressant aussi parce qu'il montre bien comment le bagne, comme le disait le patron de Paris Soir de l'époque entre les deux guerres, c'est la mine d'or des journalistes. Quand on ne savait pas, et à la suite d'Albert Londres et de bien d'autres, quand on avait un petit creux dans les tirages, disons, ou dans ce qu'on voulait imprimer, eh bien on envoyait un journaliste au bagne parce qu'on était sûr d'avoir, comme vous le dites, des tatoués, des histoires, des aventures, de la faune, de la flore, etc. Et donc le lecteur, il comprend immédiatement parce que lui, des faits divers, il en a croisé, il en a connu, il peut connaître aussi quelqu'un qui est parti là-bas parce qu'on a quand même sur une histoire séculaire. Et c'est cette profondeur là aussi d'histoire et de géographie que je sentis la première fois et j'y suis retourné ensuite régulièrement.
Quand on parle du bagne, moi je pense évidemment à tous ces forçats célèbres, tous ces des bagnards célèbres qu'on a tous en tête. Je pense à Dreyfus évidemment, je pense à Dieudonné qui était de la bande à Bono ou encore à Manda qui était le chef de bande des Apaches de Belleville et qui était l'amant de Casque d'Or, qui était une très belle et jeune prostituée. On est dans cette mythologie-là aussi sur le bagne. Et il y avait Papillon,
dont on a fait une adaptation au cinéma avec Steve McQueen et Dustin Hoffman. Papillon, qui était un homme qui s'appelait Henri Charrière et qui a écrit sa biographie, d'où a été tiré le film, et qui a été, figurez-vous, invité chez Jacques Chancel dans une radioscopie en 1969.
À la base de toute évasion, il faut toujours acheter quelqu'un, à moins de l'éliminer. Dans ma première évasion, j'ai acheté personne, j'ai éliminé trois surveillants et un gardien arabe. Mais dans toutes les autres évasions, et dans la deuxième partie de l'évasion, il faut que je paye le bateau. Il faut qu'on me prépare un petit bateau, il faut qu'on m'achète des vivres. Il fallait faire 2700 km en mer avant d'arriver où je pensais aller. D'ailleurs, où je suis allé. Donc, il faut toujours de l'argent. Comment peut-on avoir toujours de l'argent sur soi quand on vous met à poil des fois, deux, trois fois par jour? C'est bien simple. Un tube, un peu plus gros que le pouce, un peu plus long que le pouce, qui se visse avec un pas de vis, le mâle et le femelle au centre, qui est très étanche, on met de l'argent dedans et on se l'introduit dans l'anus. Il monte en haut, gros colon, on peut vous mettre à poil, écartez-vous, toussez, on voit rien. Ce qui fait que vous êtes toujours porteur d'argent. L'argent, c'est la vie, tout au moins, ça aide à vivre. Et souvent, c'est à cause de l'argent qu'on prend une décision grave. On achète un gardien, on achète notre forçat, on achète l'endroit où l'on peut, où l'on croit que l'on peut trouver une chance pour s'évader. C'est la base de l'idéal qui est de revivre.
Michel Pierre, formidable, non, ce que nous dit Papillon, qui en fait des caisses, hein, quand même.
Alors, Charrière était un personnage extraordinaire. Il y a d'abord la voix, qui est une espèce de mélange absolument invraisemblable entre Galabru, Fernandel, oui, et Charles Pasqua, avec des intonations de voix. Et ce qu'il avait de formidable, et c'est pour ça qu'il était une vedette quand il a publié son livre, il y a 50 ans, 1969, parce qu'il ne variait jamais de ce qu'il racontait, qui était un légendaire du bagne, des histoires qui s'étaient attribuées, qui étaient arrivées à d'autres, ce qui fait qu'alors c'est vrai qu'il s'est évadé une première fois de Saint-Laurent-du-Maroni, mais absolument pas dans les conditions qu'il précise là, en ayant abattu quasiment trois gardiens ou je ne sais quoi, parce que si ça avait été vraiment la réalité, il lui serait arrivé de gros problèmes lorsqu'il a été repris.
Mais il s'est quand même évadé, il a réussi à s'évader, alors non pas sur un sac de noix de coco comme dans le film, mais sur un canot. Il a été jusqu'au Venezuela.
Oui, alors il est vrai qu'il fallait quand même un certain courage en 1944, mais enfin une époque où plus personne n'est surveillé, donc c'était relativement facile de partir, mais jamais comme magnifiquement montré dans le film, tout simplement parce
qu'il a jamais sauté comme ça, comme on voit dans le film.
Mais non, parce que si vous allez à l'île du Diable, ce qui est interdit, hein, donc aujourd'hui, parce que c'est extrêmement difficile d'y accoster, vous avez bien quelques rochers ou quelques monticules, mais si vous sautez de ce qui n'est pas une falaise, vous vous écrasez sur le sol, sur d'autres rochers qui sont là. Donc là, Charrière a totalement inventé, mais ça n'a pas énormément d'importance dans la mesure où il conclut une très longue histoire, en fait, qui commence avec Alexandre Dumas, avec Victor Hugo, c'est aussi un peu Jean Valjean.
Oui,
c'est toute une histoire. Et ce qui est intéressant dans le cas du livre aussi, Papillon, c'est un petit peu le dernier grand livre d'aventure de l'écriture Troisième République. L'une des clés, c'est de comprendre que Charrière était fils d'un couple d'instituteurs, que lui-même avait fait une année d'école normale, et que s'il n'avait pas été tenté par d'autres plaisirs, il serait devenu sans doute un instituteur dans sa région natale. Mais de ce milieu-là et de ses habitudes culturelles, il avait retiré, c'est pas le même style qu'Albert Londres, c'est un style beaucoup plus conventionnel, beaucoup plus convenu, et celui des instituteurs de la Troisième République. Et c'est ça aussi qui explique le succès en 1969 de ce livre, qui est beaucoup plus difficilement lisible aujourd'hui, mais qui correspond à presque à deux siècles d'histoire littéraire sur ce sujet.
Oh, 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 qui ne s'est jamais laissé enchaîner? Oh, oh, on ne saura jamais ce qu'est la liberté. je le sais, je suis un évadé. Ciel tout bleu. Oh, 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 supporter un ciel noir 3 jours sur 2. Je l'ai supporté, je suis un évadé. Oh, 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 pour connaître le prix de la liberté. Moi je le connais, je suis un évadé.
Chanson du Forçat de Serge Gainsbourg qui a été écrite spécialement pour la série télévisée Vidocq. Très belle chanson, non ?
Oui, c'est une belle chanson et c'est une, là aussi une longue tradition. On possède des chants de galériens du XVIIe siècle et on aurait pu aller aussi jusqu'à Jacques Higelin avec Cayenne. Et chaque période, que ce soit, alors il y a le chant de prison, il y a le chant de galérien, il y a le chant du bagne, alors de ce qui ont été aussi les bagnes portuaires pendant un siècle à Brest, Rochefort et Toulon, et puis ce qu'ont été les bagnes coloniaux. On a même des chants, un chant algérien par exemple. Parce qu'une partie des forçats qui étaient présents en Guyane venaient aussi d'Algérie pour des raisons de droit commun, mais de droit commun imposé quand même par la puissance coloniale. Mais des milliers de condamnés sont partis comme ça d'Algérie et vous avez un certain nombre de chants également réalisés sur place. Ce sont très souvent des chants issus de la communauté des prisonniers ou des forçats, ou bien créés de l'extérieur, comme Gainsbourg ou Jacques Higelin. Mais les deux se rassemblent assez bien.
Alors, jusqu'à 15h sur France Inter, c'est votre journée particulière, Michel Pierre. L'été 54, la lecture de Spirou, puis celle d'Albert Londres, ont dessiné la géographie de l'adulte que vous êtes devenu aujourd'hui. En 1954, l'ex-bagnard, l'ex-forçat Guillaume Seznec disparaissait.
Ceux qui n'ont cessé de croire à l'innocence de Seznec, ses avocats Maître Biaggi et Hubert, sa fille Jeanne et sans doute aussi le révérend père Tenson, se sont trouvés à nouveau réunis autour du lit de mort de l'ancien bagnard. Seznec n'est plus, mais l'affaire, la troublante affaire Seznec demeure. Jaunie par les années, la page du cahier du pénitencier pose toujours la même interrogation. L'homme qui, durant 23 ans de sa vie, expia à Cayenne le meurtre du conseiller Kemner, était-il bien le meurtrier ? Au bagne, Guillaume Seznec n'a cessé de proclamer son innocence. À son retour, en 1947, c'est la première phrase qu'il a prononcée en serrant ses filles dans ses bras. Et depuis, le vieillard, qu'aucun deuil n'a épargné, le vieillard, usé par trop d'adversité, a dit et redit son innocence. Maintenant, il s'est tué à jamais. Fera-t-on un jour la lumière totale sur le meurtre de Kemner, qu'un homme, Seznec, paya de 23 ans de bagne, coupable ou innocent ?
Michel Pierre, comment ne pas mieux commencer cette, cette petite discussion sur Sesnec. Il meurt en 54, il avait été condamné en 24 et 30 ans après, on se demande encore si Guillaume Sesnec était innocent. Et aujourd'hui encore, quand j'en parle, là, quand je dis je vais faire une émission autour de l'affaire Sesnec, tout le monde pense qu'il a été victime d'une erreur judiciaire. C'est ça l'histoire, Michel Pierre.
Oui, et c'est ça qui est assez passionnant, d'essayer de comprendre comment on peut passer d'un fait divers crapuleux ou de j'ose pas dire homme d'affaires, de deux négociants en breton vont partir pour vendre une Cadillac vers Paris. Il ne reviendra de cette équipée que Guillaume Sesnec, qui sera rapidement soupçonné d'avoir fait disparaître son compagnon de voyage pour tout simplement tenter de s'attribuer une importante propriété de ce dernier. Donc, comme on n'a pas retrouvé le corps du disparu...
Ni l'arme du crime.
Oui, mais ça, comment dirais-je, c'est le corps qui est d'abord l'arme du crime. Si vous trouvez l'arme du crime et que vous trouvez pas le corps, c'est qu'il y a un problème. Donc, en général, vous faites disparaître les deux à peu près en même temps. Mais et que Sesnec a toujours proclamé son innocence, ce qui est quand même assez classique. Ça a été aussi le cas de Landru, hein, qui juste en montant sur l'échafaud a toujours clamé son innocence. Donc,
Landru, rappelez-nous alors.
Bah, Landru, en plus. Il y a un petit rapport avec l'affaire Sesnec parce que l'opinion publique s'en souvient. C'est 2 ans auparavant, c'est à Gambet, ce bon monsieur Landru qui va faire commettre à peu près une dizaine de crimes, dont 10 femmes, dont 2 dont on a retrouvé des traces dans la cuisinière, et puis les autres qui ont complètement disparu. Séduisait, il entraînait, il faisait disparaître et il récupérait l'argent. Alors, avec Sesnec, on n'est quand même pas dans le même. C'est pas Landru non plus, si ce n'est que bon, il y a des proximités géographiques puisque là où non pas du tout, mais là où Landru a commis ses forfaits à Gambet, c'est pas très loin de Houdan, qui est l'endroit aussi où sans doute Kemner a disparu pour la dernière fois.
Kemner, qui était la personne, l'accompagnait.
Comme le disait le reportage, qui l'accompagnait. Par ailleurs conseiller général du Finistère, et qui disparaît. Et donc on a une enquête, évidemment, qui alors, au contraire de ce qu'on pense la plupart du temps, et c'est ça qui m'a vraiment intéressé, c'est que l'enquête est menée très sérieusement, l'instruction dure 1 an, le procès est impeccable, et les présomptions qui pèsent ou qui vont peser sur Sesnec sont considérables, c'est-à-dire elles vont être suffisamment importantes pour que, même sans aveu et sans avoir trouvé le corps, on a un motif qui est celui de s'approprier par la fabrication de faux qu'aujourd'hui plus personne ne conteste. Guillaume Sesnec a fabriqué les faux pour s'attribuer la propriété qu'il visait de Monsieur Kemner. Et donc les jurés ont jugé ou ont répondu à l'unanimité sur la fabrication des faux et ont considéré qu'à partir du moment où il y a des faux, il y a crime. Lorsque tout a été repris beaucoup plus récemment par la chambre criminelle de la Cour de cassation en décembre 2006, les 33 magistrats sont arrivés aux mêmes conclusions que leurs devanciers de 1924.
Alors Michel Pierre, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui vous a passionné, j'imagine, quand vous avez décidé de fouiller toutes ces archives et de fouiller les archives médiatiques, des médias, de ce qu'on écrivait dans les journaux, des émissions de télé. C'est la longévité de cette affaire. C'est-à-dire que tout commence, l'affaire Sesnec commence en 1924 et l'ultime procès a lieu en 2006. L'ultime révision a lieu en 2006. Presque un siècle comme ça, où on s'interroge, où on réinterroge. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? C'est une histoire à rebondissement, avec des révélations. Comment ça se fait?
C'est quelque chose qui est souvent commun aux faits divers. On en voit sur des faits divers plus contemporains. Pour que vous ayez cette longévité, il vous faut un certain nombre d'ingrédients. Alors, le premier ingrédient, il faut que l'affaire en question, ou le fait divers, soit incarné. Et il l'a été par Guillaume Sesnec lui-même, par sa femme, dans un premier temps, sa fille, et encore aujourd'hui, son petit-fils et toute une famille et un certain nombre de personnes autour.
Qui clament son innocence
voilà,
encore
et
toujours.
Les personnes autour appartiennent à la Bretagne. Donc c'est un territoire qui a cru petit à petit qu'on avait en gros une affaire Dreyfus à la bretonne. Et puis, vous ajoutez à ça l'idée d'une machination policière, ça s'appelait toujours à l'opinion publique, l'histoire d'une affaire d'État qui n'a jamais existé, et puis vous rentrez, vous répétez, vous reprenez, plus personne n'est capable de résumer en deux phrases, y compris dans les médias, l'affaire, mais on préfère, et c'est tout à fait honorable, juger qu'un coupable soit innocent, c'est moins grave que le contraire.
Mais alors il y a des mots magiques. Il y a des mots magiques dans cette affaire. Il y a des histoires de tireuses de cartes, d'agitateurs de pendules. C'est une histoire de Cadillac qu'on veut vendre à des soviétiques, à des bolcheviques. Il y a tout ce qu'il faut.
Alors,
c'est ça que vous dites, en fait. Oui, c'est ça votre thèse, Michel Pierre, de dire qu'il y a tous les ingrédients pour que ça dure, pour que ça devienne une sorte de... C'est romanesque, presque.
Ah ben, je commence le livre avec une phrase. Aucun romancier n'oserait.
Oui.
Ça, c'est vrai que quand on rentre dans le détail, parce que j'évoque aussi tout ce qui tourne autour de la famille et de la parentèle, et des clans qui s'opposent, etc. Mais on a, effectivement, comme vous dites, bolcheviques, cadillacs, machinations policières, on a tout ce qui peut permettre à une opinion de se construire. 95% de l'opinion publique est effectivement persuadée de l'innocence de Guillaume Cesnec, mais sans avoir jamais regardé le dossier. Même après, normalement, le jugement de la Cour criminelle de la Chambre criminelle de la Cour de cassation de 2006 aurait dû mettre fin en quelque sorte aux rumeurs. Mais pas du tout, puisque quelques années après, vous avez Robert Hossein qui fait une pièce, une émission de télévision, et aujourd'hui,
le groupe breton, qui chante l'innocence de Cesnec.
L'innocence, qui ouvre leur concert en disant, en le dédiant au plus vieux prisonnier de France, innocent bien évidemment. Et puis,
c'est votre martyr breton?
C'est, alors, pas chez moi, mais parce que là, pour moi, ce qui est martyrisé, c'est un peu la vérité, la réalité dans cette histoire. C'est peut-être pas le cas, mais c'est considéré comme une sorte de martyr, victime. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, soi-disant victime de la justice parisienne, alors qu'il est jugé en Bretagne par des jurés bretons, et que finalement, il y a une époque récente, un certain nombre de ministres de la justice auraient bien voulu finalement donner à l'opinion publique ce qu'elle désirait, c'est-à-dire l'innocence de Cesnec. Et ce sont les magistrats de 2006 qui, en reprenant l'entièreté du dossier, se sont dit, mais attendez, il faut quand même que la liberté de la justice s'exprime et que la réalité des faits finisse par l'emporter.
Alors évidemment, il y a le grand chroniqueur judiciaire Frédéric Potcher qui s'en est mêlé, qui s'est intéressé à cette affaire, et qui, en 67, donc 20 ans après la libération de Cesnec, fait une enquête de 55 minutes pour la télé, dont le titre est « Il y a 20 ans, Cesnec ».
Cesnec, jusqu'à son dernier souffle, s'est défendu d'avoir tué Kemner. Et pourtant, il y a des faits incontestables. Rappelons-les, la disparition de Kemner, la découverte de la valise, les variations de Cesnec, l'existence des faux, les témoignages de Plouarette et du Havre. À partir de ces faits, les jurés, un juge qui n'a pas participé au délibéré nous l'a dit, donc les jurés ont acquis l'intime conviction que Cesnec était coupable de meurtre et ils l'ont ainsi condamné. Mais ces faits, que personne ne conteste, étaient-ils suffisants pour envoyer au bagne à perpétuité un homme? Je vous le demande, ce verdict est-il conforme à l'idée que vous vous faites de la justice?
Formidable, non?
Michel
Pierre, c'est la conclusion de cette émission. Alors, comment l'entendre, comment l'écouter? Est-ce que c'était conforme à l'idée que vous vous faites de la justice? Qu'est-ce qu'il sous-entend là?
Il sous-entend l'ouverture. Alors, à la fois, c'est étonnant dans cette émission et la démarche de Frédéric Potcher, à la fois, il considère que les faux, sont réels, que l'intime conviction des jurés
tout.
N'est pas... Mais tout, il est à la fois à charge et, en quelque sorte, il conclut à décharge d'un juge d'instruction dans son genre. Mais il était partisan aussi d'une autre hypothèse, c'est que Monsieur Kebner serait parti vers l'Amérique. Et là, ça ouvrait la saison 25 de l'épisode 4.
Voilà, c'est ça.
C'est-à-dire Kebner à Saint-Pierre-et-Miquelon dans la prohibition et fournissant du whisky aux Américains.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cette émission a suscité un courrier abondant. On a à nouveau émis de nouvelles hypothèses. Et c'est ça, en fait, l'affaire Sesnec. Ça ne cesse jamais jusqu'en 1989. Où là, j'ai lu, je n'en croyais pas mes yeux, un comité de soutien à Sesnec, un appel pour la réhabilitation de Guillaume Sesnec, et la liste des signataires est impressionnante. C'est toute l'intelligentsia parisienne qui signe.
Ah oui, c'est tout le Paris qui danse, qui pétille et qui écrit, qui signe. Ça mériterait presque une étude dans le détail, parce que vous savez, quand on est quand même on peut être tenté par l'idée de penser qu'il y a une erreur judiciaire. Dès qu'on vous amène un papier, on vous dit un tel ou un tel, c'est une erreur judiciaire, c'est abominable, on a envoyé un innocent au bagne. Bah, vous avez déjà le stylo prêt pour signer. Et pour peu que ceux qui vous font signer aient la conviction absolue de quelque chose qui est parfaitement moral, vous n'allez quand même pas résister. Enfin, ce serait être quelqu'un ou quelqu'une d'absolument pitoyable de pas apporter sa signature à une cause aussi noble.
Mais alors, Michel Pierre, moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette histoire, c'est toutes les apparitions de l'au-delà. Enfin, c'est toute la présence de l'au-delà avec les tireuses de cartes, les pendules. Il y a même une vierge qui se met à parler, enfin...
Oui, à Kérinizène, dans le Finistère Nord, il y a eu une apparition dès 1938 de la Vierge qui est apparue et qui a dialogué avec une paysanne du coin. Mais l'évêque de Quimper et les autorités catholiques n'ont jamais accepté ces visions.
Pourquoi elle disait quoi, la Vierge qui est apparue?
Bon, Sesnec
était innocent.
Alors, plus tard, justement, en 1949, c'est-à-dire quelque temps, plus de 10 ans après le premier dialogue entre Madame Ramonet, puisqu'elle s'appelait ainsi, et la Sainte Vierge, Madame Ramonet, ses visions et ses dialogues avec la Vierge ne sont toujours pas reconnus par l'évêché de Quimper ni par les autorités catholiques. Donc, à un moment, elle rapporte, Madame Ramonet, j'ai pas la voix de la Vierge, dit que la Vierge lui a dit de prendre patience, que certes on la reconnaissait pas à Quimper, mais qu'il suffisait qu'elle regarde aussi ce pauvre monsieur Sesnec qui était revenu du bagne, qui était innocent et que lui avait souffert et subi quelques années, et que donc elle pouvait bien elle attendre un peu avant qu'on reconnaisse le dialogue entre elle-même et la Vierge. Alors ça ce sont des textes évidemment qui sont très intéressants sur la culture populaire, ou même pour l'anecdote, Madame Ramonet se plaint à la Vierge en disant « Mais autour de moi, on ne me croit pas trop parce qu'on dialogue en français alors que tout le monde parle breton. » Et pour la seule fois que je connaisse de ma vie dans des études de ce type, la Vierge va parler breton pour montrer qu'elle était aussi capable de s'exprimer dans cette langue.
بشران أصبرا ودينا مسد وقشن
particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Michel Pierre, c'est la dernière partie de cette émission. On va reprendre quelques événements de cette fameuse année 1954, cette année où vous lisez dans un bois, Spirou, et pas sur une plage. Alors l'année débute bien sûr, on le sait tous, avec l'appel de l'abbé Pierre. En février 54, toujours en février 54, Boris Vian écrit la chanson du déserteur alors que la France est engagée dans la bataille de Dien Bien Phu en Indochine.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter.
Michel Pierre, vous la connaissez évidemment par cœur, cette chanson magnifique, chantée par Boris Vian. Là, c'est la voix de Boris Vian qu'on vient entendre. 54, c'est une année importante par rapport à la guerre. C'est la fin de la guerre d'Indochine.
Et ça va être le début de celle d'Algérie, quelques mois plus tard, en novembre. Même si on ne parle pas encore de guerre à ce moment-là, ce sera ce qu'on a appelé la Toussaint Rouge et les premiers affrontements, les premiers attentats de ce qui va devenir une guerre qui va durer jusqu'en 1962. C'est effectivement assez extraordinaire de voir à ce moment-là sortir cette chanson. Les chansons, et surtout les chansons qui deviennent populaires, n'arrivent jamais par hasard. C'est toujours lié à un moment donné. C'est vraiment en résonance, c'est le cas de le dire, avec des événements soit qui viennent de se passer, soit qui vont arriver.
Alors en 1954, il se passe des choses bizarres en France. Il y a une sorte d'invasion de soucoupes volantes, particulièrement dans l'est de la France, c'est ça ?
Oui, on a une prise. Alors les soucoupes volantes, c'est quelque chose qui est vraiment très lié aux années 50. De fait, dans Spirou aussi, en 1954, vous avez une histoire de deux petits héros qui s'appelaient Blondin et Cirage qui rencontrent les soucoupes volantes. Donc la bande dessinée là toujours est présente. Et la grande presse dont nous parlions pour y compris pour l'affaire Cesnec, par exemple, un hebdomadaire aujourd'hui disparu qui s'appelait Radar. Eh bien Radar offrait justement en 1953-54 une prime d'1 million de francs de l'époque pour tout lecteur fournissant une vraie photo d'une vraie soucoupe volante. Je crois que personne n'a remporté l'argent, mais les pages de Radar et de toute la presse de l'époque étaient remplies de ces histoires de soucoupes volantes, alors qu'ils apparaissent particulièrement dans l'est de la France, mais également dans d'autres endroits. Vous aviez régulièrement en cette année des apparitions de ce type. Alors là, ça mériterait aussi de voir pourquoi ce moment a été particulièrement riche. Je pense tout simplement que nous sommes en pleine guerre froide en 1954 et que la trouille, la frayeur, la peur de la bombe atomique fait qu'on rentre dans des croyances qui permettent en quelque sorte de dévier un peu de la vraie trouille qu'on peut avoir de ce qui peut arriver.
Alors la télévision française s'intéresse, bien sûr, la télé publique s'intéresse à ce sujet et en 1954, on interroge les passants sur l'existence ou pas de soucoupes volantes.
Monsieur, s'il vous plaît, nous faisons une enquête sur les soucoupes volantes. Est-ce que vous croyez aux soucoupes volantes, monsieur?
Non, monsieur.
Non, pas du
non,
tout.
Pour mon compte personnel, non.
Oui.
Quand j'en aurais vu une, de mes propres yeux, j'y croirais.
Ah, vraiment sceptique.
Et les, sceptique.
Mais par exemple, toutes les informations qu'on voit journellement à ce sujet,
vous avez 20
personnes par jour.
Je reste sceptique quand même.
Monsieur, est-ce que vous croyez aux soucoupes volantes?
Oui, monsieur.
Vous y croyez pourquoi? Vous en avez vu?
Non.
Parce que vous pensez que dans ce tas de témoignages recueillis, il peut y avoir quand même des observations.
Oui, je crois soient... certains des témoignages.
Vous avez entendu le sujet de notre enquête, monsieur. Est-ce que vous croyez aux soucoupes?
Oh, ma foi, j'y crois pas du tout, par exemple. Parce
pourquoi?
Qu'en résumé, la distance de la Terre entre une planète quelconque est tellement formidable que un individu quelconque ne peut pas traverser une couche atmosphérique.
Oui.
Où on y trouve de l'azote, où on y trouve de l'hydrogène, où on trouve de l'oxygène.
Pourquoi croyez-vous aux soucoupes volantes?
Je sais pas, mais enfin, j'y crois.
Vous croyez au témoignage?
Oui.
Vous pensez que
enfin, témoignage, je trouve qu'il y a un petit peu d'abus.
Il n'y a pas de fumée sans feu.
Oui.
Il n'y a pas de fumée sans feu. Et témoignage, le mot témoignage revient sans arrêt. C'est-à-dire qu'apparemment, il y avait des témoignages sur ces soucoupes volantes un peu partout. Tout le monde témoignait de ce qu'il avait vu.
Ah oui, on retrouve des personnes qui sont interviewées, qui montrent l'endroit au bout du jardin où l'herbe a été un peu cramée par l'arrivée d'une soucoupe volante. Et on est vraiment dans un moment très, très curieux.
Alors en 1954, et c'est pour vous faire plaisir et pour clore cette émission, en 1954, Simone de Beauvoir recevait le prix Goncourt pour Les Mandarins. Mais en 1954, c'est Ernest Hemingway, lui, qui reçoit le prix Nobel de littérature.
No writer who knows the great writers who did not receive the prize can accept it other than with humility. Writing at its best is a lonely life. Organizations for writers palliate the writer's loneliness, but I doubt if they improve his writing. He grows in public stature as he sheds his loneliness, and often his work deteriorates. For he does his work alone, and if he is a good enough writer, he must face eternity, or the lack of it, each day.
La voix d'Hemingway, on vient d'entendre Hemingway, Michel Pierre. Alors qu'est-ce qu'il dit? C'est son discours de réception du prix Nobel. Tout écrivain, sachant quels grands écrivains n'ont pas reçu ce prix, ne peut l'accepter qu'avec humilité. La vie d'un écrivain en mettant les choses au mieux est une vie de solitaire. Les groupements d'écrivains pallient la solitude, mais je doute qu'ils améliorent son style. Son importance grandit aux yeux du public lorsqu'il renonce à sa solitude, mais souvent son œuvre en souffre. Car il œuvre dans la solitude et s'il est assez bon écrivain pour cela, il doit chaque jour affronter l'éternité ou son absence.
Non, c'était un très beau. Il y a quelques très beaux discours d'acceptation du prix Nobel et celui d'Hemingway en fait partie, comme celui d'Albert Camus, bien évidemment. Et alors, c'est vrai, mais j'y avais pas pensé. 1954 et Hemingway, c'est aussi l'année où je lis Le vieil homme et la mer et ça fait partie aussi des lectures qui façonnent une vie d'adulte. Et après, devenu adulte, on découvre des choses qui ont été aussi importantes pour Hemingway, ne serait-ce que le rhum et le cigare.
Que vous appréciez donc, Michel
Absolument.
Pierre. Merci Michel Pierre d'avoir passé cette heure avec nous. Alors vos livres sur le bagne, sur l'affaire Seznec où le temps des bagnes sont publiés aux éditions Talendier. C'était une journée particulière, une émission préparée par Hugo Combe, Alina Véronique de Saint-Pastou, à la réalisation David Le Prince, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique Alexandre Chenet. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et surtout podcaster cette émission sur le site de France Inter. Nous, on se retrouve la semaine prochaine.